Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Nombres. Donc, c'est le troisième livre de la Bible. Quatrième livre de la Bible, livre des Nombres, et au chapitre 14. Les Nombres, chapitre 14. Je construis un peu ce matin, un peu sur les pensées qu'on a commencé à développer jeudi soir pendant l'étude biblique. Et donc, j'approfondis un petit peu, mais dans Nombres chapitre 14, ces derniers temps, nous avons beaucoup lu dans, bon, d'abord dans Genèse, et puis ensuite Exode, et nous avons vu un peu dans Deutéronome, et puis les Nombres, tirer des leçons qui sont là dans l'Ancien Testament, qui sont reprises dans le Nouveau Testament, qui sont des concepts et des réalités pour notre vie chrétienne. C'est toujours le même Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. C'est toujours ce qu'il recherche des justes, c'est qu'ils vivent par la foi. Et donc, voilà. Donc, je vais lire les versets 20 à 24. Donc, Nombres, chapitre 14, versets 20 à 24. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui ont méprisé, m'ont méprisé, ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où je suis allé, où il est allé, et ses descendants le posséderont. Voilà, c'est un jugement et une promesse. Et vous savez, nous ne pouvons pas imaginer dans quel état était quel état spirituel se trouvait le peuple juif lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsque Moïse est arrivé pour leur dire écoutez, l'Éternel veut vous sortir de là. Parce que ce que nous voyons, on ne sait pas trop sur ce qu'ils étaient avant, mais lorsque nous voyons le travail qu'il y a à faire et qui reste à faire dans le désert, eh bien, nous disons qu'ils étaient en piteux état. Après tout ce qu'ils ont vu en Égypte, de la puissance de Dieu, des interventions de Dieu pour obtenir de Pharaon leur émancipation, nous ne pouvons pas dire qu'ils vivaient par la foi. Alors que le principe biblique qui est mentionné dans déjà Habacuc, chapitre 2, verset 4, repris déjà par Paul dans les Romains, dans les Galates, aussi on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, c'est dit « le juste vivra par la foi ». Ça, c'est toujours vrai. Qu'on aille voir Noé, qu'on aille voir Abraham, qu'on aille voir Moïse, qu'on aille voir Josué ou David ou Jean-Baptiste, ou Paul, ou Pierre, eh bien c'était toujours « le juste vivra par la foi ». Et c'est le seul principe qui reste toujours par la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Vous savez, ce qu'on remarque en lisant ces livres de Moïse, le Pentateuque, nous voyons que c'est constamment Dieu intervient, Dieu fait un miracle, il y a un prodige, Dieu pourvoit, Dieu délivre. Mais à la fin, on a l'impression qu'il n'y a aucun progrès spirituel. Et depuis qu'ils ont quitté l'Égypte jusqu'à la frontière du Canaan, eh bien c'est toujours ce désir, ça ne va plus, on va rentrer en Égypte. Toujours ce désir, cette pensée de retourner en Égypte. Mais vous savez, lorsqu'on pense à l'époque de Christ, ce n'était pas meilleur. tous ces miracles que Jésus a fait, que toutes ces interventions, tous ces gens qui ont été soulagés d'un mal, d'un problème, que ce soit la faim, que ce soit la vue, que ce soit délivré de la lèpre, que ce soit d'un démon, que ce soit d'autre chose, tout ce que Dieu a fait et nous dit que même les livres ne suffiraient pas pour décrire toute cette intervention de Jésus-Christ. Et pourtant, quand Jésus était sur la croix, eh bien, il n'y avait personne pour s'y opposer. Je veux bien, j'accorde que ces gens qui ont été guéris, c'est peut-être pas eux qui ont crié « crucifie-le », j'espère en tous les cas, mais personne n'a crié « injustice », même pas les disciples, ils n'étaient pas là. Vous savez, on a cette impression avec les êtres humains qu'on ne fait que répéter les mêmes choses. Quelqu'un a dit, certainement c'est juste, dit la seule chose que l'homme tire de l'histoire, c'est qu'il ne tire rien de l'histoire. On retient aucune leçon. On ne fait que répéter les mêmes erreurs. Et je ne pense pas que de nos jours, les chrétiens soient meilleurs. Hein. Alors, il y a tellement de choses qui se font au nom de Christ. Je relisais un peu quelques résumés sur la biographie de Sundar Singh. Et on lui a jeté à la figure, on lui a dit, mais le christianisme, c'est un échec là-bas en Europe. Regarde dans quel état ils sont, regarde ce qu'ils font. Il a répondu, c'est pas que le christianisme soit un échec, c'est que les chrétiens ne vivent pas selon ce que Dieu a voulu. Et donc, ce matin, nous voulons un peu regarder dans le miroir de l'Ancien Testament, pour un peu mieux se voir. Hein. Et puis, nous ne voulons pas, comme a été dit dans l'une des prières, nous ne voulons pas être ces auditeurs oublieux, hein, ou comme dit Jacques, qui regardent dans le miroir, et puis qui voient quelque chose et qui repartent sans rien faire. Et donc, je vais un peu m'arrêter un peu pour comprendre ce qui s'est passé là avec Moïse, et pour en tirer quelques leçons. Donc le titre de notre étude ce matin, c'est « Enlisé entre l'Égypte et Canaan ». Ils sont sortis d'Égypte, oui, mais ils ne sont jamais arrivés à Canaan. Quelque part, je prends cette image d'être enlisé entre les deux. Et si ça vous est arrivé d'être enlisé dans de la boue avec votre véhicule ou votre bicyclette ou quelque chose, eh bien vous comprenez ce que ça veut dire. Hein, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée et on ne progresse pas. Voyons premièrement ce qui a provoqué cet enlisement. Je vais un peu vous rappeler les récits de l'Ancien Testament. Vous savez, l'Éternel avait, au moyen des 10 plaies, il avait réussi à amener Pharaon au point où il a laissé partir le peuple. Mais par sa réaction juste après, nous comprenons qu'il l'a fait à contre-cœur. Hein. Il a, à peine la nuit passée, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On les a laissés partir et il a été essayé de les ramener et au prix de sa vie. Bien sûr, le peuple, en le voyant arriver avec son armée, ils n'avaient pas encore traversé la mer Rouge, ils se trouvaient là dans un cul-de-sac naturel, la mer devant eux, plus moyen de reculer, et ils voient Pharaon arriver, ils ont paniqué, ils ont crié à l'Éternel, et puis ils ont critiqué, ils ont murmuré, et vous vous souvenez, il y a quelques dimanches, on a dit, l'ordre de l'Éternel, c'était garder le silence, parce que Dieu va intervenir, gardez le silence. Ne paniquez pas, mais par la foi, laissez faire Dieu. Et Dieu leur a accordé cette délivrance. Hein, on le voit dans Exode chapitre 14, comment Dieu les a délivrés totalement. Et bien sûr, une fois qu'ils étaient sortis de leur situation, et qu'ils avaient traversé, que la mer s'était refermée, et que l'ennemi était détruit, et bien là, ils ont chanté. Hein, c'est très humain, hein, n'est-ce pas? passe de la panique, et puis dès qu'on est soulagé, voilà, c'est la joie. Mais la joie qui est basée sur un événement, elle ne transforme pas la vie. Hein. Ce qu'on veut, c'est cette joie permanente qui est avec vous, qui est avec nous, parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie, entre autres. Nous voyons un peu plus tard, ils arrivent jusqu'au Sinaï, et là, on commence à se regrouper, on commence à mettre de l'ordre, on va mettre des commandements, on va structurer la société, cette nouvelle société-là, qui, ce sont des esclaves qui n'ont rien géré jusque-là, ont géré leur vie, tout d'un coup ils sont là, il faut se structurer, et Dieu va les aider. Et pour cela, il y a un moment où Moïse monte sur la montagne, et puis elle s'absente 40 jours, hein, un peu plus d'un mois. Et vous savez ce qui se passe au pied de la montagne, hein, c'est que tout d'un coup, on se dit, mais nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, il a disparu, on ne le voit plus, on n'entend plus parler de lui. Écoutez, Aaron, tu ne peux pas nous aider là, tu nous fais une idole, et puis parce qu'on a besoin d'un dieu, hein, il nous faut un dieu, et Moïse n'est pas là. Pourtant, ils avaient entendu la voix de Dieu, ils avaient entendu le tremblement, ils avaient vu le feu, ils avaient vu la nuée. Et ils ont dit, nous faut un Dieu. Puis, ils ont un veau d'or. Et puis, faute très grave. C'est pas seulement d'avoir une idole, c'est pas seulement de se créer quelque chose qui ressemble à une créature et puis à qui on attribue des choses, mais c'est qu'ils attribuent à cette idole la sortie de l'Égypte. Il dit, voilà l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte. Vous savez, c'est une faute très grave d'attribuer l'œuvre de Dieu à autre chose que Dieu. Jésus en a parlé un petit peu, et je ne vais pas le développer, mais en passant, vous vous rappelez, il a parlé, hein, il y a un moment où les pharisiens viennent et puis ils attribuent à Satan l'œuvre de Christ, l'œuvre de l'Esprit. Et Jésus dit, ça c'est un péché impardonnable. Lorsqu'on prend l'œuvre de Dieu, lorsque c'est clairement l'œuvre de Dieu, et on l'attribue à Satan ou à un autre que Dieu, eh bien c'est très grave. C'est une faute qui se répète. Parfois on attribue l'œuvre de Dieu à un homme, parfois on attribue à un démon, dans la critique, certains le font dans l'ignorance, mais d'autres sont plus conscients de ce qu'ils font, et c'est une faute très grave. Mais là, ils ont attribué à... Donc, ils arrivent à ce point, on se dit, mais comment, après avoir vécu les 10 plaies de l'Égypte, après avoir vécu la traversée de la mer Rouge, la provision d'eau. Et puis alors là, ils arrivent à maintenant complètement se détourner de l'Éternel Dieu. Et vous savez, on se dirait, hein, je penserais que qu'ils auraient encore, après leur délivrance, après la traversée de la mer Rouge, avec ceux qu'ils ont vus, on dirait, mais normalement, ils devraient être encore plus attachés à Dieu. Hein, vous avez peut-être déjà, peut-être vous l'avez fait déjà, si vous trouvez un animal sauvage ou un oiseau piégé, et vous le libérez, et puis vous le voyez partir, ben, vous n'attendez pas à ce qu'il revienne vous dire merci, hein. Ou que tous les jours, il vous envoie, tous les ans, il vous envoie une carte pour dire merci. Hein. Non, non, il repart dans la vie qu'il avait. Ça, c'est un animal. Mais pour un être humain qui a été délivré de l'esclavage du péché, qui a été délivré, et que Dieu délivre, et puis qu'il, une fois délivré, ben, il oublie tout, puis il repart. Et ils sont prêts à repartir en Égypte, repartir constamment en train de repartir. Comment est-ce qu'un être humain peut faire cela? Et pourtant, on le fait tout le temps. Hein, il y a des gens qui ont été, ils ont rencontré, ils ont entendu le message de Jésus-Christ. Ils ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Alléluia, je suis sauvé. Ils ont chanté comme les Juifs ont chanté une fois traversé la mer Rouge. Ils ont chanté le tambourin, tout est là. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on retourne dans le monde. On oublie Dieu. Et on commence à attribuer à soi-même ses succès. Les chrétiens, on le fait. On sait qu'on a été sauvés d'un jugement éternel par le sang versé de Christ sur la croix. Comment peut-on retourner à la vie que nous menions avant? Avant de connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est devenu malédiction pour que nous puissions avoir la bénédiction. Voyons aussi les enfants d'Israël qui, dans leur, et on l'a vu il y a quelques dimanches aussi, ils ont choisi de parmi eux des espions. Ils ont choisi selon leur intelligence. Ils ont choisi des hommes qui sont partis en Canaan, visiter le pays que Dieu promet. Dieu leur dit, c'est le meilleur. Le pays où coule le lait et le miel. Et le but, c'est d'aller voir et de se motiver. Ces espions reviennent et sur les 12, il y en a 10 qui disent, c'est beau, mais c'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'ils imaginaient, que Canaan, que ce serait, les gens auraient déjà le tapis rouge déroulé, et puis avec une grande bannière, bienvenue, vous les Juifs. Je ne sais pas ce qu'ils imaginaient, mais ils se disent, il faudra prendre possession, ce ne sera pas facile, les villes sont... Et oui, mais... La question, c'est, personne n'a demandé. Dieu a dit, je vous donnerai. Il n'a pas dit que vous allez conquérir, que vous allez prendre pour vous-même. Vous avez essayé de déposséder. Mais il dit, je vais vous le donner. Donc, c'était une question de foi. Mais ces hommes n'ont pas eu cette foi. Et en plus, ils ont découragé le peuple. Et sans tenir compte de tout ce que Dieu avait démontré jusque-là, tout ce qu'il avait fait en Égypte, sans tenir compte de toutes ses provisions, de toutes ses promesses, de toutes ces paroles, et de ces engagements, toutes ces références à son alliance avec Abraham, tout cela, ils n'ont pas pensé. Tout ce qu'ils ont pensé, ils disent, on est à côté de ces hommes, on est comme des sauterelles, les murs vont jusqu'au ciel, et c'est tout ce qu'ils pensaient. Et ce qui leur a fait dire, et si vous regardez au Nombre chapitre 14 et au verset 4, ils dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Encore, après tout ce qu'ils ont vu, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous savez, c'est pas les seuls, mais il y a combien de chrétiens ils commencent, alléluia, gloire à Dieu, je suis sauvé, je suis content, tout ça. Et puis chaque fois qu'ils rencontrent un petit obstacle, et puis ils repartent. Ils veulent repartir de là où ils sont venus. Mais tu avais une raison pour avoir quitté. Pourquoi veux-tu toujours retourner? Mais ils étaient là et ils ont voulu. Ils ont dit, nommons un chef. Comme si, eh ben Moïse, c'est pas bon. Dieu, c'est pas bon. Nous, on va se débrouiller tout seul et on va repartir. Pour retourner, et ils ont oublié ce que c'était l'Égypte. Tout ce qu'ils se souvenaient, c'est les melons et les concombres et les oignons et tout ça, mais pas les cris que leur faisaient donner et élever les Égyptiens. Et les seuls qui ont eu foi, c'était Joseph et Caleb, Josué et Caleb. Et même, vous savez à quel point ils sont arrivés. Lorsque, au verset 11, il dit, et l'Éternel dit, Non, verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider, parlant de Aaron, de Joseph, Aaron, Moïse, Josué et Caleb. Il dit, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant les enfants d'Israël. Si Dieu n'était pas intervenu, ils auraient lapidé ces hommes de foi. Et là, au verset 11, Dieu parle. Il dit ce qu'il pense de ce comportement. Et au verset 11, il dit, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il » Voilà comment Dieu l'a pris. Lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu agit, lorsque Dieu pourvoit, lorsque Dieu rassure, lorsque Dieu relève, et puis on l'oublie, et on fait comme s'il n'avait jamais rien fait, eh bien Dieu prend ça comme du mépris. Il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Et Dieu prend ça très, très personnellement. Il dit, c'est lui qui est rejeté. Et il dit, ce pays qui a été promis, regardez au verset 22. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui ont méprisé, m'ont méprisé, ne le verront point. Voilà comment Dieu prend la chose. Comment est-ce qu'ils sont arrivés dans cet état? Pourquoi ils se sont enlisés entre l'Égypte et Canaan? Eh bien, c'est que quand ils étaient dans la difficulté, ils ont crié à Dieu. Dieu intervient. Après, bon, c'est terminé, on oublie. Et on repart. Et constamment, c'était ça. Et même, il nous dit combien de fois Dieu a pardonné chaque fois. Vous savez, est-ce que c'est caractéristique de ma vie chrétienne? Je pense à Dieu, je crie à Dieu uniquement quand je suis dans la difficulté, dans l'impasse, dans la solitude, dans l'abandon, et je crie à Dieu, et puis ça y est, ça va mieux. Bon, merci, au revoir. C'est un peu ce qui est arrivé avec l'homme qui était paralytique depuis 38 ans. Jésus est venu. Et cet homme, il a dit, mais oui, il y a cette piscine-là, et puis normalement, le premier qui, quand elle est agitée, le premier qui met les pieds, il est guéri. Mais moi, j'y arrive pas, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et donc, je suis là depuis 38 ans, j'attends une occasion. Et Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme se lève, prend son lit, il rentre chez lui, puis ensuite, il va chez les pharisiens. Et on lui dit, qui est-ce qui t'a dit de porter le lit? Ah, ben, c'est Jésus, hein. Et il ne défend pas Jésus. Il va bien. Jésus le retrouve plus tard et dit attention. Hein. Mais combien de gens, on implore Dieu, il intervient, il nous fait une grâce, il nous sort de notre situation. Et puis après, on lui dit bon merci, et puis je te dois rien, tu me dois rien, et puis on continue. On repart jusqu'à la prochaine fois. Et ça fait que, finalement, je suis comme une personne enlisée. La voiture, elle peut être belle, ça peut être du joli, ça peut être tout ce qu'on veut, mais si ça tourne dans le vide, dans la boue, eh bien, ça va nulle part. Hein. Il ferait mieux d'avoir une deux chevaux, ça sortirait mieux. Hein. Mais, vous savez, enlisé dans notre vie chrétienne. Et on ne progresse plus, et c'est toujours la même chose, et c'est le cycle qui se répète chaque fois. Oh Dieu! Et puis après, silence. Vous savez ce que cela a coûté, cet enlisement? Parce que c'est pas gratuit, c'est pas seulement « je patine, mais bon, d'accord ». Non, non, mais ça coûte. Parce que, là, Dieu vient de le dire, hein, il dit « ce peuple qui a vu sa gloire et les prodiges de l'Égypte ». Il dit « voilà, ils ont vu ma gloire ». Et ils ont vu les prodiges de l'Égypte, tout ce que Dieu a fait. Les Égyptiens non-croyants ont vu. Alors combien plus les enfants d'Israël l'ont vu, surtout que plusieurs de ces plaies n'étaient pas contre eux. Hein, ils l'ont vu chez les autres. Il dit aussi, ce peuple m'a tenté 10 fois. Hein, Dieu compte. Hein, ce Dieu tient compte. On dit, ouais, il a pardonné, mais il a tenu le compte. Je dis, mais c'est quand même, il n'y a pas de progrès là. Hein, parce que Dieu mesure, Dieu constate. Hein, c'est pas lui, il dit pas, bon, écoute, j'ai oublié. Non, non, il pardonne, mais il n'est pas oublié, dans le sens de, il ne sait plus. Hein, vous prenez l'exemple, par exemple, le péché de David. David a confessé, Dieu l'a pardonné. Et il pourra dire par la suite, il a dit un homme selon mon cœur. Mais il dira quand même, dans Matthieu chapitre 1, il dit, il a pris la femme d'Uri. La vérité, elle est toujours là. Les faits, on ne change pas les faits parce que les faits sont là. Hein? Dieu pardonne, ça veut dire que je ne te le reproche plus, tu ne seras plus jugé pour cela. Mais ce qui t'est arrivé. Et Dieu souligne en plus, regardez au verset 20 du Nombre 14, l'Éternel me dit, je pardonne quand tu m'as demandé. Verset 19, Moïse a essayé d'intervenir, il dit, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Il pardonne. Mais... est-ce que ça ne pourrait pas s'appeler de abuser de sa générosité? Est-ce que c'est un péché que les chrétiens ne commettent pas? C'est abuser du pardon de Dieu? Bon, ben, c'est pas grave, après je lui demanderai pardon, il pardonnera, hein, Dieu pardonne toujours. C'est une attitude à avoir envers Dieu et le Seigneur. Sommes-nous meilleurs que ces enfants d'Israël? Dieu dit, au verset 20, il dit, je pardonnerai. Hein, il dit, Moïse a demandé, il dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais, je suis vivant, à la gloire de Dieu, mais ils ne n'entreront pas dans le pays. Hein, je pardonne, mais, quelque part, ils n'entreront pas dans le royaume. Toutes ces personnes qui sont sorties de l'Égypte n'entreront pas dans la terre promise. Leurs enfants, hein, c'est pas seulement qu'eux n'entreront pas, mais leurs enfants devront attendre qu'ils soient tous morts, tous ceux qui avaient 20 ans et au-dessus à la sortie de l'Égypte, eh bien la génération suivante devra attendre et tourner dans le désert aussi, patiner avec eux, à cause d'eux. Vous savez, on ne pêche jamais tout seul. Ça a des répercussions sur les autres. Si nous sommes pères de famille, eh bien ça affecte toute la famille. Quand papa n'est pas fidèle, ne marche pas avec le Seigneur, eh bien toute la famille en souffre, qu'il le veuille ou pas. Quand maman se relâche, eh bien elle qui fait, hein, c'est elle le thermostat de la maison, hein, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps, hein, dans la maison. Et si elle, spirituellement ça ne va pas, la maison, dans l'église, on peut avoir beaucoup de belles personnes, mais s'il y en a qui sont en train de patiner, ça ralentit tout le monde. Puis en plus, c'est le nom de Christ. On a les voisins qui disent, bon, ben celui-là, il se dit chrétien, mais je ne vois pas la différence. Hein, ça sert à quoi d'être chrétien? Vous savez ce qui est arrivé aux 10 espions qui ont manqué de foi? Et qui ont en fait découragé tout le peuple, eh bien, au verset 36 et 37, donc Nombre 14, versets 36 et 37, il dit, « Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. » Et là, le jugement était tout de suite. Eux, ils avaient causé à tout le peuple de manquer de foi. Alors cela, Dieu a été sévère avec eux. Je dis tout ça, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour nous encourager, pour dire, mais Dieu, il est sensible, c'est une personne. C'est pas, vous savez, vous pouvez, votre chien, vous pouvez lui mentir tout ce que vous voulez, et puis il restera attaché à vous. Hein, ben lui, parce qu'il, voilà. Mais Dieu, c'est une personne. Et il est sensible, il ressent. Et si on le respecte pas, on se comporte pas correctement avec lui, vous savez, on connaît bien la règle d'or, hein, qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Mais aussi « aime Dieu comme toi-même ». Comme tu voudrais être traité et respecté, respecte Dieu. Ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Et lorsqu'ils entendent les paroles de l'Éternel, ben ils disent « Ah ben non, on va y aller ». Et puis ils se rassemblent, ils se mobilisent, et puis après ils vont dire « On va rentrer en Canaan ». Moïse a dit « Ne rentrez pas, ne rentrez pas, l'Éternel n'est pas avec vous, waouh, on va y aller ». Puis ils y vont, et qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est l'échec total. Vous savez, on peut pas, même si on sait quelle est la volonté de Dieu, puis après on essaye de la faire de ses propres forces, et un peu sans compter sur lui, et on veut le faire sans lui, on n'y arrive pas non plus. Et ce qui arrive, il nous dit dans Deutéronome 1,40, Dieu leur dit, retournez à la mer Rouge. Et ils ont fait demi-tour. Ils étaient à la frontière de Canaan, la terre promise, et par leur manque de foi, par leur comportement, eh bien maintenant ils font demi-tour et ils les ramènent aux berges, aux rives de la mer Rouge. Comprenez la grâce de Dieu, parce qu'il ne les fait pas retourner en Égypte. Même si combien de fois ils ont dit on veut retourner en Égypte, ils auraient dit bon, vous, après tout ça, avec le manque de reconnaissance avec eux, tout ça, écoutez, partez en Égypte et puis tant pis pour vous. Vous l'auriez voulu. Si Dieu avait été un homme, il aurait fait ça. Mais Dieu n'est pas un homme. Hein, heureusement pour nous. Donc il ne les renvoie pas en Égypte, parce que l'Égypte serait content de retrouver leurs esclaves. Mais il les renvoie du bon côté de la mer Rouge, quand même. Vous savez, on peut, une fois qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre cœur, on est sauvé, il nous a pardonné. Parfois, on peut, par notre négligence, par ce manque de suivi, eh bien finalement, on est près du monde, sans être du monde, mais on ressemble beaucoup. On est sur les rivages de la mer Rouge. Il n'y a que la mer Rouge qui nous sépare du monde. Et combien de chrétiens vivent là? Et finalement, non seulement qu'ils sont là, mais ils ont campé là. Et ceux-là ont dû rester là pendant 40 ans parce qu'ils n'ont pas tiré de leçons, des interventions de Dieu, ils n'ont pas placé leur foi en Dieu. Et trop nombreux sont les personnes qui sont venues à Christ pour la délivrance de leur état de condamné, mais qui ne vivent pas dans l'obéissance. Ils lisent pas la parole, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils savent, connaissent de la parole. Dieu est là, c'est un peu comme l'assistance sociale, hein, quand on a besoin, on en fait appel. J'ai déjà dit à mon dentiste, j'ai dit, écoutez, vous savez, je pense pas souvent à tout, mais quand j'ai mal aux dents, je pense à vous. Et souvent, on traite Dieu de la même manière. Peu importe depuis combien de temps je suis au Seigneur, mais est-ce que je suis enlisé sur les berges de la mer Rouge, hein, symboliquement? Pas fait de progrès. Ouais, j'ai 40 ans que je suis chrétien. Et oui, mais dans ta croissance, il y a quel âge? Eux, ils ont dû, c'est là qu'ils ont terminé leur vie, là. Bon, ils ne sont jamais retournés dans l'esclavage, ça c'est sûr, mais ils ne sont jamais entrés dans le pays de Canaan. où là, il y a la provision de Dieu, il y a l'accomplissement des promesses de Dieu. Et alors, ce matin, maintenant que j'ai dit tout cela, puis je dis, mais bon, comment sortir de là, hein, si jamais je vois que je suis enlisé dans cette, et je patine dans ma vie chrétienne, et au point où je me dis, c'est épuisant cette vie chrétienne. Eh bien, c'est ce que le symbolisme qu'on suggère quand on dit enlisé entre l'Égypte et Canaan. L'Égypte, ce n'est pas la nation, mais ça représente le monde, l'esclavage, le péché, l'état dans lequel nous sommes naturellement sans Dieu. Et Canaan ne représente pas le ciel, mais représente cette communion. Hein, c'est où nous vivons dans la volonté de Dieu, là où il nous veut, et où nous vivons dans cette communion avec lui. Et entre les deux, c'est le désert. Et idéalement, c'est le salut que nous présente l'Évangile, c'est de nous faire sortir de l'Égypte, traverser le désert, mais pour arriver à Canaan, et vivre là. Et normalement, ils auraient vu, en quelques semaines, ils auraient pu faire ce trajet. Et si le désert n'est qu'une étape de transition, un moment où, hein, c'est en une nuit, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, mais ça a pris plus de temps que cela pour faire sortir l'Égypte d'Israël. Et c'est un peu ce que nous vivons, et c'est cette étape que nous devons traverser, où il y a cette purification et l'apôtre Paul nous parle en Romains chapitre 12, il parle du renouvellement de l'intelligence. Je repense tout autrement, je revois toutes mes copies sur tous les sujets, parce que maintenant je les vois d'un autre angle et parce que Dieu est dans l'image. Hein? Mais combien de personnes ils ne transitent jamais, ils s'arrêtent là, ils sont bloqués. Le théologien Warren Wiersbe, il a dit, ces chrétiens sont coincés entre Golgotha et la tombe ouverte. Ils sont passés par la croix, ils ont obtenu le pardon de leurs péchés, le sang de Christ a fait son œuvre, mais la vie nouvelle que nous avons par la résurrection de Jésus-Christ, ils ne sont pas encore dedans. Eux, ils sont encore dans le samedi, là. Ils ne sont jamais quittés le samedi. Et ça se voit dans leur vie. Et ils ne vivent pas pleinement dans la lumière. Comme il nous dit dans 1 Jean chapitre 1, hein, regardez, dans 1 Jean chapitre 1, c'est là où il nous parle de ce que c'est que vraiment cette vie de communion avec le Seigneur, premier épître de Jean, et au chapitre 1, et je lis à partir du verset 5, il dit « La nouvelle que nous vous avons apprise de lui, parlant de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. » Ça, c'est un fait. « Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, comme si c'était nécessaire d'ajouter ça, mais pour que ce soit clair. » Verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Il y a cet état, il dit « Oui, on est enfant de Dieu, mais oui, mais si tu continues à vivre dans les ténèbres ou dans la pénombre ou dans les... » tu n'es pas en communion avec le Père, hein, parce que lui il est lumière, et pour être en communion avec lui il faut être dans la lumière et vivre dans la lumière. Et comme dit l'évangile de Jean, il dit certains craignent la lumière parce que ça va révéler des choses dans leur vie, et après il faudra traiter avec, et comme ils n'ont pas prêt à lâcher, donc ils préfèrent vivre un peu dans la pénombre et ne pas jouir, ils se privent de quelque chose de très précieux. Verset 8, il nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Il dit, voilà, l'idéal, Dieu est lumière. Et celui, l'enfant de Dieu, veut cette communion. Eh bien, il faut qu'il aille dans la lumière. La lumière va révéler tous les défauts. Hein. Les chambres de garçons, tant qu'on n'allume pas la lumière, c'est aussi joli château de Versailles. Hein, mais dès qu'on allume la lumière, alors là, on en voit des choses. La lumière. Mais certaines de nos vies aussi, ça ressemble à des chambres de garçons. Hein, mais bon, après, il faut le traiter. Si tu allumes la lumière, comment ça faire? Si tu confesses ton péché, tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Il va mettre le ménage. Et comme maman vient aider, et puis elle met de l'ordre dans tout cela, eh ben, le Saint-Esprit et le sang de Christ et Dieu est là. Et il veut mettre de l'ordre pour qu'après, on se dise, voilà, ça, c'est un endroit agréable. Et comment est-ce qu'on peut vivre dans le monde, hein, vivre dans cet état entre deux, hein, cet état d'entre deux, bien, finalement, dans 1 Jean chapitre 3 et verset 1 à 10, il dit ce qu'on peut faire, parce que nous ne pouvons pas voir le cœur. Dieu regarde le cœur, heureusement pour nous tous, Dieu voit le cœur. Et il juge. Mais pour nous autres, eh bien, nous ne pouvons que voir la vie que nous menons. 1 Jean chapitre 3, verset 1 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà, chose extraordinaire. Les enfants d'Israël a dit, vous êtes mon peuple. Oh, il dira dans le terrain, je ne vous ai pas choisi parce que vous étiez les plus forts, ou parce que vous étiez les plus nombreux, ou ceci, cela, hein. Non, en fait, vous êtes très, très, très dur. Hein. Mais je vous ai aimé, parce que je vous ai aimé. Et pour nous tous, c'est un peu ça aussi. Voyez quel amour Dieu a témoigné. Il dit, et nous a appelés ses enfants. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça, c'est un indice. Quiconque a cette espérance en lui, si vraiment je crois qu'un jour je serai dans la présence de Dieu, eh bien ça va avoir un effet sur ma vie, forcément. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je vis. Verset 4, il dit, quiconque pratique le péché, vous remarquez, pratique, ce n'est pas celui qui pêche, nous pêchons tous, il l'a dit au chapitre 1, il dit nous pêchons tous, ça c'est des accidents, mais celui qui pratique, ça c'est son mode de vie. Il dit, quiconque pratique le péché, transgresse la loi, le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas, c'est-à-dire ne vit pas une vie de péché. Quiconque pratique le péché ne l'a point vu et ne l'a point connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si les œuvres du diable sont encore là, alors c'est que Jésus n'est pas passé par là. Et personnellement, je dis, si je ne vois pas les signes de l'œuvre de Dieu dans une vie, je dis, cette personne, c'est une personne qui a besoin de Jésus-Christ. Je ne peux pas voir dans le cœur, donc je regarde et je parle. Je réagis en fonction. Hein. Bon, les gens inconvertis, ben on les aime, hein. Dieu les aime, nous on les aime, il n'y a pas de problème. On aime toujours tout le monde. Je dis, mais bon, j'aurais du mal à lui dire frère, hein, je vais lui parler du salut en Jésus-Christ, parce qu'il n'y a aucun signe de l'œuvre de Dieu. si le Saint-Esprit est présent, si Jésus-Christ a purifié, s'il y a une compréhension quelconque de ce que Christ a payé sur la croix, il me dit, mais ça doit affecter sa vie. Et si ça n'affecte pas, c'est qu'il n'y a rien. Donc, quelle est la démarche à suivre ? Si je me trouve justement en train de patiner dans cet état-là, eh bien, quelle est la démarche à faire pour me dégager de cet englument ? Eh bien, premièrement, reconnaître son état devant Dieu. Il faut commencer par là, reconnaître, dire « Seigneur, je vois, je suis là, voilà où je suis. » Et demander son pardon. Vous avez vu comment il a pardonné le peuple d'Israël avec tout ce qu'ils ont fait. Il a dit « je pardonne. » Et il est prêt à pardonner. Donc on peut compter dessus. N'allez pas vous dire, s'il y a une pensée qui vous vient à l'esprit, dire « mais Dieu, il ne pourra plus te pardonner. Hein, tu as exagéré, hein, tu peux Dieu. » Si vous avez cette pensée-là, c'est le diable qui vous la passe. Hein. Ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Parce que Dieu, encore aujourd'hui, pardonne. Premièrement, donc, reconnaître son état devant Dieu et demander son pardon. Deuxièmement, mettre en pratique ce que je comprends de la parole de Dieu. On ne demande pas à tout le monde de tout comprendre dans la Bible. Mais mets en pratique déjà ce que tu comprends. Hein. L'enfant qui dit, « Papa, comment on fait 3655 plus 4225 ?» Il dit, commence par faire 2 et 2 font 4. Et 3 et 2 font 5. Tu commences à faire ça et tu y arriveras. Commence à mettre en pratique ce que tu sais, ce que tu comprends. Troisièmement, s'engager en déclarant sa foi en Christ à ceux qui nous entourent. Surtout si si j'essaie de circuler dans le monde sans laisser savoir que je suis un chrétien, c'est sûr que personne ne va être étonné par mon comportement. Mais si je m'engage, je dis, mais je suis enfant de Dieu, je crois, la Bible. Alors après, les gens, ils vont dire, ah ben, un chrétien, il fait ça. Vous savez, ce genre de remarques-là, ça nous oblige à remettre en état. C'est déclarer qu'on est enfant de Dieu, et vous savez, ils seront là pour vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu. S'engager. Déclarer notre foi en Christ à ceux qui nous entourent. Qu'ils se moquent ou qu'ils nous éloignent, s'écartent de nous, nous abandonnent, peu importe. Mais ça y est, je suis engagé pour le Seigneur. Ensuite, quatrièmement, je dis rechercher la communion avec les Josué et les Caleb, les gens de foi. Rechercher ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Vous savez comment c'est les colonies de vacances ? Des enfants arrivent de partout, mais beaucoup ne se connaissent pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en moins de 24 heures, les clowns se sont retrouvés. C'est extraordinaire. Oui, mais aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui sont attachés au Seigneur se retrouvent aussi. Et donc, dans un groupe, finalement, si je vais vers les clowns spirituels, eh ben, bah, je serai comme eux. Mais si je cherche les Caleb et les Josué, ceux qui sont attachés à la foi et qui veulent vivre pour le Seigneur, eh bien, j'aurai choisi des amis qui me tirent vers le haut. Et ça m'encouragera dans ma vie chrétienne. On est un corps. Personne n'est tout seul. On a besoin de ces liens les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'on emploie les expressions frères et sœurs. C'est pour illustrer, c'est pour déclarer ces liens qui existent. Et on se soutient, on s'encourage mutuellement. Je cherche des personnes qui aiment le Seigneur. Je cherche une église où on prêche la parole de Dieu. Je lis les livres qui m'encouragent. Dans ma foi. Et cinquièmement, vivre dans la lumière, dans la communion avec Dieu. c'est-à-dire la prière, la méditation de sa parole, le partage spirituel avec les frères et sœurs. Tout ça, ça fait partie de cette communion. C'est ce corps que nous sommes, grâce à l'Esprit de Dieu, grâce au sang versé de Christ. Et c'est exactement la volonté du Père. C'est que nous puissions vivre cela. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre d'arriver au ciel pour le vivre. On peut commencer à le vivre maintenant. Et c'est ce que le Seigneur désire, c'est la volonté. Alors, ne soyons pas enlisés entre l'Égypte et Canaan. Ne nous arrêtons pas entre la croix et la tombe ouverte. Mais jouissons du pardon des péchés, de la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, et puis on va s'épanouir et vivre pour Dieu. Les disciples, après Pentecôte, une fois que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection de Christ a pu intervenir dans leur vie, ben c'était des hommes transformés. Et il n'y a rien dans la Bible qui me dise qu'ils ont pensé retourner là où ils étaient avant. Paul, qui avait un tel statut avant de connaître Christ, n'a jamais entretenu l'idée de retourner là. Il a continué à vivre pour Dieu. C'est ce que nous voulons. Et que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous. Et ce n'est pas une question de regarder à celui qui est à côté de moi, c'est de se regarder soi-même et dire, mais où est-ce que j'en suis? Et est-ce que j'avance? Et Seigneur, je suis pris dans cette boue, sors-moi de là. Je veux planter mes pieds sur le rocher éternel et aller de l'avant. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un parking. Il a dit, je suis un chemin et on marche. Je vais me taire là. On va prendre quelques minutes de silence et que chacun pourra, en fonction de ce que le Seigneur lui aura dit, montré, déjà parler au Seigneur et dites-lui deux mots, puis ensuite je reprendrai et je prierai.